With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bienvenue dans 9 mètres carrés. Mais c'est quoi? Un espace infiniment petit. Parfois, la douche est sur le palier. On y met un lit. Quand on peut, un minuscule bureau. Seule satisfaction, regarder depuis sa fenêtre les toits de Paris. 9 mètres carrés, c'est le cliché, pas cliché, de l'étudiant qui galère. En dessous de 9 mètres carrés, c'est illégal, selon la loi. Bref, 9 mètres carrés, c'est l'espace d'un étudiant durant un laps de temps plus ou moins grand. Et malgré toutes ces contraintes, se produiront des conversations, des questionnements, des peurs, des rêves qui mèneront un jour au diplôme. Alors au journal étudiant Sorbonne, on s'est dit que si on devait nous donner la parole, ce serait bien qu'on s'appelle 9 mètres carrés, histoire de souvenirs. Dans ce podcast, notre fine équipe d'étudiants en galère se retrouve à chaque épisode pour bavarder d'un thème, d'un questionnement, d'un phénomène, et on a plein de choses à en dire. Ce bouillonnement créatif est produit par Radio Grande Contrôle.
Bonjour, bonsoir. Je ne sais plus comment trop vous saluer en cette période qu'on ne sait même plus comment qualifier. On dit pandémie, on pourrait aussi dire effondrement, crise, destruction, solitude. Pour les plus optimistes, on dit aussi alternative, transition, introspection et créativité. Et puis pour d'autres, c'est le déni total. C'est essayer de garder les routines d'hier, manger, dormir, travailler. Et je ne m'aventurerai pas sur nos petites libertés gagnées depuis quelques jours, car mentalement, on va pas se mentir, nous sommes toujours confinés. Bon, le blabla sur tout ce qui se passe, vous le connaissez, vous êtes bien informés, sûrement mieux informés que moi-même. Alors on va faire ce qu'on sait le mieux faire ici, dans 9 mètres carrés, depuis nos petites chambres confinées, déconfinées, en fonction de votre ressenti. On va aller explorer ce qui se passe aujourd'hui chez les étudiantes, étudiants. À quoi ressemble leur vie? Quelles sont celles et ceux en première ligne? Quels sont leurs rêves ou leurs désillusions? Je vous préviens, dans ce podcast, il va pas y avoir d'injonction à faire que ce soit forcément quelque chose de réussi. En revanche, on va écouter le ressenti de chacun. Parce que pour certains, oui, ça a été une période réussie. Pour d'autres, ça a été un échec. Et ça ressemble comme aux 2 mois de vacances d'été qu'on avait quand on était au collège. Donc on va essayer de s'écouter, de donner la parole aux personnes concernées et peut-être alors dessiner quelque chose de cette situation bizarre, étrange, qui était loin d'être sur notre planning universitaire. J'ai assez parlé et il est temps de laisser les paroles à celles et ceux qui sont avec moi grâce au progrès de la technologie. Et pour commencer, bien sûr, le tant attendu Tom.
Et bonjour Laura, bonjour à toutes et à tous. Nous y voilà, 5e et dernier épisode de cette 2e saison de 9 mètres carrés. Et tant de choses se sont passées depuis la dernière fois que nous étions là, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé à ce micro. Il y a une pandémie mondiale, une crise sanitaire, fermeture des universités et des écoles, fermeture des bars, confinement, télétravail, crise économique, crise de la culture, manifestations anti-confinement, tensions policières, tensions internationales. Notre avenir à tous dans la balance. Et finalement, on y est, le déconfinement. On y est doucement, hein, après plus de 2 mois dans l'incertitude et une reprise de la vie qui s'annonce progressive. Alors, comme tu le disais Laura, grâce à la technologie, nous ne sommes pas seuls. Nous avons mobilisé cette petite équipe du journal étudiant ON pour bricoler une émission 100% confinement. Car les studios de Grande Contrôle ne font que 15 mètres carrés, donc on s'est dit que pour respecter la distanciation physique, on allait rester chez nous. Certains ont des micros Zoom, d'autres des téléphones portables. Toutes nos excuses d'ailleurs pour la qualité du son qui risque d'être variable pendant cette émission. Mais que voulez-vous, circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, nous ne pouvions pas passer à côté de cette période unique de notre histoire. Surtout que s'il y a bien une émission qui peut se réaliser confinée dans un petit appartement avec un micro et 3 bouts de ficelle, c'est sans nul doute 9 mètres carrés.
Élémentaire, mon cher Tom, tu as vraiment l'ADN de 9 mètres carrés dans la peau, tout comme nos chroniqueuses d'ailleurs, Anaïs, l'écolo féministe en chef que vous connaissez si bien, et puis une nouvelle, Emma, qui est en charge de la production des podcasts chez ON. Elles sont avec nous, bonjour à toutes les deux.
Bonjour tout le monde.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour à vous. Alors Emma, tu nous proposeras aujourd'hui un peu d'optimisme avec tes ondes positives. C'est le titre de la chronique que tu as réalisée pour 9 mètres carrés. Et avant toi, Laura l'a dit, le confinement est pour certains synonyme d'incertitude, voire d'angoisse. Pour d'autres, il a permis de créer un nouveau quotidien, que ce soit entouré de proches ou bien seul, en pleine introspection. Cette période, qu'Emmanuel Macron qualifiait d'idéale pour se réinventer, beaucoup l'ont utilisée pour réaliser des objectifs d'ordinaire trop secondaires dans une vie rythmée par les études, le travail et la fatigue. Anaïs, c'est toi qui as tendu le micro à ces personnes confinées et on écoutera ensemble leurs témoignages. Deux nouvelles chroniques donc, pour un nouveau 9 mètres carrés, on n'arrête pas le progrès.
Et oui Tom, l'émission est confinée, donc la formule change à tout point de vue exceptionnellement. On va donc recevoir deux invités déjà. Elsa Karadjian et Marin Comartin. Elsa est étudiante en médecine et travaille dans un EHPAD. Marin est aussi étudiant en médecine et travaille dans un hôpital en cardiologie. On les appelle les premières lignes, même s'ils ne se définissent pas forcément comme cela. Et c'est très certainement une appellation à laquelle Elsa et Marin n'avaient pas pensé en commençant leurs études. Alors on va leur donner la parole, on va essayer de comprendre la situation qu'Elsa et Marin ont traversé et continue de traverser depuis le mois de mars. Et puis, on va surtout les écouter.
Mais avant de les retrouver pour qu'ils répondent à toutes ces questions, nous vous proposons une petite nouveauté de 9 mètres carrés. Passer une journée dans la vie de nos invités. Ils ont accepté de s'enregistrer pendant trois moments de clé de leur quotidien. Et on les écoute tout de suite.
Alors, il est 7h15. Je me lève... comme en temps normal, nos horaires sont inchangés, donc mes horaires de lever aussi. En ce moment, je suis confiné chez mes parents pour des raisons familiales, ce qui reste quand même assez proche de mon lieu de travail. J'ai 40 minutes en vélo, ce qui reste quand même tout à fait raisonnable. Je suis du coup avec ma famille, mes sœurs, mes frères. On arrive tout à fait à prendre nos aises, etc. L'avantage d'habiter en banlieue, c'est que c'est quand même assez vert, assez spacieux. On est quand même à l'aise. Ma routine avant d'aller travailler, c'est la même que d'habitude, c'est-à-dire petit-déj, douche et puis sac, quoi. À quoi ressemble mon trajet en ce moment? En raison des transports, où c'est un peu le bazar en ce moment, plus ou moins risqué avec le risque de contagion, j'ai favorisé le vélo. C'était très bien jusqu'au 11 mai, mais depuis que les gens sont sortis, le trafic est devenu particulièrement anarchique, si ce n'est pas dire sauvage, mais bon. C'est le même genre de trajet, c'est à vélo, c'est sympathique, ça permet de faire son sport, etc. Alors, il est 11h30, une première partie de la matinée c'est fini. Pour l'instant, ce que j'ai fait, je suis à l'hôpital Georges Pompidou, je travaille en oncologie digestive. En ce moment, on s'occupe de patients qui n'ont pas vraiment arrêté leur suivi, car comme le nom du service l'indique, c'est des malades qui sont quand même assez graves, dont il faut s'occuper régulièrement, etc. Il faut... C'est s'assurer qu'ils vont bien, essayer de les soulager, les accompagner au mieux dans leur pathologie, etc. Tous les matins, il y a une réunion qu'on appelle staff, où on discute de chaque patient, de ce qu'on fait, de leur devenir, etc. Et après, il faut se brancher pour savoir ce qui leur est arrivé pendant les 18 dernières heures. On n'était pas là, si ils sont allés bien, si au contraire, ils ne sont pas allés bien, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Ce matin, c'est quand même assez calme, parce que comme à cause de la situation actuelle, on tourne un peu au ralenti, notre service y compris. Donc c'est pas trop stressant ou fatigant, donc ça va. Et qu'est-ce qui m'attend pour la deuxième partie de la journée? Ça va être la visite avec le professeur. Le professeur et le chef de service qui vont... En fait, on va analyser chaque malade et grosso modo, il va falloir leur présenter un peu ce qu'on va faire, enfin ce qu'ils ont, ce qu'on va leur faire. Et ça participera notamment à notre évaluation de stage. Il est maintenant 13h30, je suis toujours à l'hôpital Georges Pompidou, je m'apprête à rentrer chez moi, c'est comme ça qu'on fonctionne, nous les externes, on fonctionne en demi-journée. Comment je me sens après cette journée de travail? Assez... comme d'habitude, pas particulièrement fatigué. Après, ce qui est sûr, c'est que quand même une demi-journée importante, c'est assez calme, ça n'en reste pas moins qu'il ne faut pas faire... Il ne faut pas faire les choses à moitié, donc ça reste un boulot. Mais bon, c'est assez ralenti en ce moment, donc pas trop de pression. Avant le confinement, c'était quand même beaucoup plus speed, il y avait beaucoup plus d'activités, beaucoup plus de galères aussi, de galères administratives à l'hôpital. Maintenant, ça va beaucoup mieux de ce point de vue-là. C'est assez ralenti, donc on a le temps de prendre plus de temps pour chaque patient. C'est assez bien, je pense, mais bon, on verra bien comment ça va passer ensuite. Et que me reste-t-il à faire pour ma journée? tout mon travail d'étudiant, c'est-à-dire apprendre, étudier, commencer un mémoire, enfin bref, beaucoup de choses qui m'attendent.
Alors voilà, je m'apprête à partir pour l'EHPAD pour y passer la nuit. Il est actuellement un petit peu plus de 20h et je suis donc encore chez moi, heureusement en compagnie de toute ma famille, de mes parents et de ma grande sœur. Donc j'ai la chance d'être bien entourée pendant cette période de confinement, même si j'ai dû me tenir à l'écart pour les protéger du virus en mesure de prévention. Donc là, j'ai fait une petite sieste en fin d'après-midi. J'ai mangé un petit peu, même si je vais manger sur place parce qu'on a un plateau repas qui nous attend. Et puis, je vais préparer mon sac, mes petites affaires. Je vais prendre la voiture et en ce moment, les routes sont très dégagées, surtout à cette heure-ci. Donc voilà, le trajet est assez rapide. Alors ça y est, on vient de finir notre premier tour avec ma collègue. Il est un peu plus de 11h du soir. Et donc, toutes les deux, on a fait le tour de tout l'établissement. On est allé voir tous les résidents pour voir s'ils allaient bien, pour changer leur protection et éventuellement leur drap ou leur à-l'aise. On leur a donné les médicaments du soir pour dormir. Et comme d'habitude, on n'a pas traîné. C'est même un rythme assez sportif pour ne pas finir trop tard et laisser les résidents dormir tranquillement. Donc là, on va pouvoir manger un peu et puis fermer les yeux, même si on n'est jamais à l'abri d'une éventuelle urgence pendant la nuit. Et puis, on va refaire exactement la même chose à 4h du matin. Donc, on va mettre le réveil et puis on va espérer que tout se passe bien. Donc, ma nuit s'est bien déroulée, on n'a pas eu de complications particulières. Je suis rentrée chez moi vers 7h30 et puis là, il est déjà 8h30 passé. Donc j'ai pris une douche et puis j'ai raconté un peu ma journée à ma mère. Comme toutes ces nuits-là à l'EHPAD, c'est difficile, c'est fatigant, c'est un travail qui est très physique quand même. Et puis c'est surtout le réveil à 4h du matin pour le deuxième tour qui est compliqué. Mais bon voilà, vu qu'on n'est que toutes les deux pour assurer le bien de tous les résidents durant la nuit, on se sent quand même utile et je suis quand même contente d'avoir pu faire ce travail-là. Donc là, je m'apprête à aller dormir. Et puis, si j'y arrive, j'essaierai d'ouvrir les cours dans l'après-midi. Voilà. Allez, bonne nuit.
Vous venez de passer une journée dans le quotidien d'Elsa et Marin, très certainement différent du vôtre. En tout cas, Elsa et Marin, ce sont celles et ceux qui, depuis 2 mois, ont été impactés directement par cette pandémie. Et on dit aujourd'hui en première ligne.
Ils sont maintenant avec nous, Elsa, Marin. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci à vous d'être là. Elsa, tu es donc étudiante en 4e année à l'UFR des sciences de la santé Simone Veil, anciennement appelée Faculté de médecine de Paris-Ouest. Tu as 21 ans et depuis deux mois et demi, tu travailles dans un EHPAD. Marin, tu es toi aussi étudiant en 4e année à la Fac de médecine de Paris-Descartes. Tu as 20 ans et tu as travaillé 4 mois au service cardiologie de l'hôpital européen Georges Pompidou, ainsi que 4 semaines au service Covid+. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, c'est est-ce que cette crise sanitaire a changé quelque chose dans votre rythme de travail, Elsa ?
Alors oui, pour ma part, il y a beaucoup de choses qui ont changé pendant ces 2 mois. Alors déjà, en tant qu'aide-soignante, j'ai travaillé à l'EHPAD parfois de jour et parfois de nuit. En fait, donc ça dépendait des remplacements que je prenais. C'est vrai que switcher entre le jour et la nuit, ça a beaucoup changé mon rythme au niveau du sommeil. C'était très compliqué. Donc oui, au niveau de ma routine, j'ai commencé à faire que ça. Donc j'ai un peu mis mes études de côté pour ma part. Et oui, au niveau de la fatigue et du sommeil, c'est un peu compliqué.
D'accord. Et pour toi, Marin, ça a changé ton rythme ?
Alors pour moi, j'ai servi en tant qu'externe dans un service de Covid. Donc ça n'a pas vraiment changé. On alternait demi-journée et journée complète. On avait un rythme de travail qui n'était pas trop décalé. Même si je me suis retrouvé à faire des gardes, ça restait dans la limite du raisonnable à chaque fois. Et j'ai pu continuer à assurer mes études à côté. Et d'ailleurs, heureusement, parce que la fac a maintenu nos partiels. Donc, si j'avais dû tout changer au dernier moment, ça aurait été problématique.
Et comment est-ce que aujourd'hui vous percevez tous les deux la situation, vous qui étiez en première ligne de cette pandémie? Est-ce que vous réussissez à comprendre ce qui vous est un peu arrivé pendant ces 2 mois? Enfin, comment est-ce que vous digérez les choses maintenant qu'on est en déconfinement, même si c'est pas réellement un vrai déconfinement?
Pour ma part, pendant que je travaillais, je voyais beaucoup de choses, mais c'est surtout en fait pendant mes jours de repos que j'ai senti tout ça qui ressortait en fait. Donc l'émotion, la fatigue, le besoin de parler. Donc pendant mon service, j'étais en général assez concentrée. Il y avait vraiment toute ma volonté qui était là. Et en fait, une fois au repos, je me rendais vraiment compte de tout ce que j'y vivais. J'écoutais les infos et puis je me rendais compte que ce qu'on écoutait aux infos, c'était pas forcément ce qu'on vivait.
Et toi, Marin?
Ça changeait pas trop d'habitude. C'est même plutôt, enfin, plus simple que d'habitude et beaucoup, beaucoup moins speed. Il y avait beaucoup moins de trucs administratifs, de lourdeur, rendez-vous, etc. Ça marchait plutôt mieux, j'avais l'impression. Et c'est vrai que, comme Elisa, j'ai complètement arrêté d'écouter les infos d'une part parce que c'était assez anxiogène, je trouve. Et d'autre part parce que je faisais que ça de mes journées et puis je perdais suffisamment de temps à essayer de comprendre ce qui se passait. Donc au bout d'un moment, j'ai abandonné.
Par rapport à ce climat anxiogène, justement, on l'imagine, ça doit beaucoup déteindre sur les patients que vous rencontrez. Vous en avez peut-être rencontré qui étaient assez angoissés par le virus. Comment est-ce que vous arrivez à calmer cette peur face à l'épidémie? Est-ce que vous essayez d'ailleurs de calmer cette peur face à l'épidémie?
Pour moi, l'EHPAD, c'était encore différent parce que la plupart des résidents, en fait, au contraire, ils comprenaient pas trop ce qui se passait. Eux, c'était vraiment le côté du confinement pour lequel ils ont beaucoup souffert. Par contre, au niveau du personnel, oui, j'avais beaucoup de collègues qui étaient très, très anxieuses. Elles pensaient à beaucoup de choses qu'elles écoutaient à la télé, toutes les rumeurs qui pouvaient circuler. Mes collègues y croyaient et tout le monde avait peur. On discutait entre nous les midis pour essayer de comprendre, de débattre. C'est vrai qu'on le ressentait, mais bon, pour ma part, pas au niveau des résidents et des patients, en tout cas.
Donc, à l'hôpital, les patients, bah, pareil, ils manifestaient pas trop leur état anxiogène s'ils en avaient. Pour ceux qui pouvaient, évidemment, parce que dans notre service, il y avait aussi des personnes âgées en fin de vie, dans notre but, c'était pas de les soigner, mais plus de les accompagner. Après, ayant fait des vacations au SAMU 92 aussi pour du décrocher d'appel, là on a eu des cas des personnes vraiment très très anxieuses qui faisaient que ils étaient complètement presque fous. Pour donner un exemple simple, hein, le nombre d'appels a été multiplié par 8. C'est pour ça qu'ils ont fait appel aux externes, donc aux étudiants en médecine. Pour les aider à faire du décroché et du tri, parce que déjà en journée, c'est assez, enfin, c'est speed, quoi, c'est le SAMU. Alors, multiplier ça par 8, ça devenait dément, c'était terrible.
Comment est-ce que ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que vous avez réussi en fait à vous adapter, vous, en tant qu'étudiant, parce que même si vous étiez à l'hôpital, bah, vous êtes aussi étudiant, vous avez aussi une vie à côté. Est-ce que vous avez senti une évolution de ce milieu du mois de mars à aujourd'hui? Comment est-ce que vous avez réussi personnellement à vous adapter ou à juste reprendre le contrôle sur votre vie suite à ça?
Pour moi, en tout cas, pendant les 2 mois, moi, je me suis beaucoup enfermée. J'ai vraiment pensé qu'à ça. Je faisais que ces remplacements. J'en rêvais même presque toutes les nuits. Ça en devient un peu insupportable. Et puis, chez moi, j'ai dû aussi pas mal m'isoler de ma famille pour les protéger, au cas où. Donc forcément, je sortais plus non plus. J'avais pas beaucoup le temps de parler à mes camarades ou de leur passer un coup de fil. Donc, moi, j'avais vraiment la tête dedans. Je faisais rien d'autre. Donc, voilà, là, j'en ressors tout récemment. Donc là, je commence à reprendre un petit peu, entre guillemets, mes esprits sur ce qui s'est passé et comment je vais reprendre ma routine. Mais voilà.
Moi, j'avais un peu gardé un rythme similaire à avant. Enfin, ça reste un rythme d'étudiant en médecine, donc c'est pas. Mais c'était pas dément non plus. Je pense que d'ailleurs que tu as fait beaucoup plus d'heures que moi, Elisa, parce que quand je t'écoute, moi j'ai l'impression de n'avoir rien fait de ces 10 dernières semaines.
Après, je parle, tu
Ce
sais,
qui me fait
aussi pas
rire,
mal
c'est.
de la charge mentale qu'il peut y avoir, tu vois, l'impact émotionnel aussi, sur au-delà même, tu vois, du nombre d'heures, de la fatigue, etc. Bah, c'est peut-être quelque chose qui toi, t'a perturbé émotionnellement ou ce genre de choses, comment tu t'es remis de ça et adapté, quoi.
J'étais avec ma famille et j'ai pris des mesures, évidemment. Je respectais tout ce qu'il fallait à l'hôpital. Je mettais tous mes vêtements à la machine en revenant. Enfin, je respectais le plus possible pour éviter de transmettre à ma famille. Ma famille qui m'a bien aidé aussi à supporter moralement le truc. Parce que, enfin, au bout d'un moment, on pensait qu'on allait passer jusqu'à octobre dans ce rythme-là. Bon, c'est. Après, j'essayais de rester en contact. Enfin, limite, je me suis fait un calendrier de qui j'appelle quel jour pour pouvoir rester, pour pouvoir avoir des nouvelles des gens. Comme ça, je leur parle, ils me parlent, notamment de mes grands-parents, mais aussi mes amis, enfin, de la famille. Mais j'ai essayé justement de rester le moins possible enfermé sur moi-même parce que sinon, je me suis dit que je ne tiendrais pas. Et pour l'instant, ça va.
Et restez avec nous, on reprendra dans quelques minutes. Mais avant cela, on va passer le micro à Anaïs.
Et c'est maintenant l'heure d'écouter celles et ceux qui ont répondu au micro d'Anaïs, les confinés. C'est à toi, Anaïs, on t'écoute.
Bon, j'ai fait un bilan du confinement. Perso, j'ai commencé le mien à l'autre bout du monde, en Australie. Et moi, là-bas, j'étais en train d'imaginer ce que vous pouviez ressentir à Paris entre quatre murs. Bien que la guerre ait commencé dans l'autre hémisphère, par la chasse au PQ et au rationnement de pâtes, le vrai stress est arrivé lors de mes différents essais de booking de retour. En France, j'ai compris l'ampleur de la crise. D'abord une quarantaine obligatoire, pas très drôle, et ensuite un dépérissement propre à l'hibernation. Effet néfaste sur la pilosité, l'amour de soi, mais surtout mon bronzage. J'ai commencé à métamorphoser en une petite mamie croisée d'une marmotte. Je suis allée sur les réseaux sociaux où les humoristes étaient clairement en train de devenir barjots. Mais c'est surtout sur Insta où j'ai vu que les stories apéro, terrasse et sortie se sont changées en stories pilou, tisane et chaton. Parce qu'en plus, on vous a grillé vos clichés de vacances 2019 et les take me back nostalgiques. On a arrêté avec les parades et les facettes pour prendre des nouvelles de nos amis, de nos parents, grands-parents, parce qu'on réalisait les risques pour certains. On est resté en contact virtuellement en faisant des apéros visio, des jeux société en ligne, des journaux de confinement. Puis la solidarité sur les réseaux ou sur les balcons pour les soignants nous a rappelé qu'on était moins individualiste qu'on ne le pensait. J'ai eu le droit à de superbes histoires de confinement, rappelant les nouvelles habitudes de distanciation sociale. J'ai même une pote qui a retrouvé son crush Tinder à mi-chemin de leur appart et qui ne savait plus trop comment le saluer, serrer la main, faire la bise ou l'embrasser. Et même après s'être embrassée pour se dire au revoir, elle n'a pas pu s'empêcher de se laver la bouche au savon de retour chez elle tellement elle se sentait mal. D'autres ont dû supporter le retour au domicile familial ou supporter la flemme de leur coloc. Mais après tous ces moments de panique ou d'adaptation au confinement, il y a eu un moment où on a voulu profiter du temps, pour soi ou pour ses projets, car le confinement n'arrête pas la créativité. On écoute Yukiko, illustratrice japonaise.
Je pouvais concentrer plus ma création personnelle. C'est-à-dire, il y a des jours où j'ai décidé de dessiner que pour moi, de prendre le pinceau et j'ai essayé plusieurs techniques pour voir plusieurs différences de traits de pinceau, tester plusieurs mélanges de couleurs pour essayer de faire quelque chose de nouveau.
Axel, étudiante et réalisatrice de courts-métrages, a innové grâce au confinement.
On avait vraiment beaucoup moins de ressources. Ça fait devenir assez créatif. Par exemple, on avait fait toute une histoire autour tout simplement d'un ananas et on se mettait à le personnifier et à créer une histoire. Ça parlait un peu de la solitude aussi du confinement où finalement on se retrouve à s'attacher à tout et n'importe quoi à cause de la solitude.
Oui, ton ananas nous rappelle Wilson, le ballon de Tom Hanks dans Solo Monde. Et aussi, vous avez remarqué ce silence. Je me suis endormie sans le ronron des voitures et des mobilettes, comme dit ma grand-mère, mais avec le gazouillement des oiseaux. C'est un de ces moments qu'a vécu Louise pendant son reportage transformé en escapade.
L'avantage d'être photographe en temps de confinement, c'est que grâce à l'attestation de presse, on peut se déplacer vraiment quand on veut. J'ai fait une balade assez atypique le 1er avril. J'ai choisi d'aller photographier toutes les places vides de Paris. C'était quelque chose d'assez exceptionnel et je suis vraiment contente d'avoir pu vivre ça grâce à mon métier puisque j'étais autorisée à le faire. Et c'est vraiment quelque chose qui était unique. Une balade à vélo où j'avais presque pas à tourner la tête pour vérifier s'il y avait une voiture, tellement c'était calme, quoi.
Vous avez vu passer les photos de canards à répu ou des cerfs à Poissy ? Ils donnaient l'impression de vérifier si les humains allaient bien. C'est ce que nous raconte Olwen, en Bretagne, le red chef de la rubrique écologie chez ON.
Me concernant, je suis arrivé en Bretagne avant le confinement, donc j'y suis depuis fin mars. Et c'est vrai que je découvre quand même une biodiversité qui explose. Le problème, c'est que là, on est quand même en période estivale, enfin c'est les jeunes qui n'ont pas connu l'homme du coup. Et avec le déconfinement, je pense que si les gens ne font pas attention, ça va faire beaucoup beaucoup de dégâts.
Alors, et vous ? Vous avez mis à profit le confinement ? Le temps libre pour créer, respirer, écrire, aimer les petits riens du quotidien, redécouvrir la nature, les gens, sans abandonner la solidarité dont on avait fait preuve. Parce que le naturel revient vite au galop. Alors, continuons à faire notre pain maison.
Alors, vous êtes tous les deux étudiants et je voulais vous demander qu'en est-il finalement de vos examens de fin d'année ? Est-ce qu'ils sont maintenus ? Est-ce que vous avez le sentiment surtout d'être à l'écoute du corps enseignant ? Comment ça se passe ?
Je vois Marin qui rigole pas mal quand même.
Peut-être Marin, du coup,
dis-nous. Parce que nous sommes en Zoom, il faut le dire à ceux et celles et ceux qui nous écoutent. Et Marin s'est quand même pris d'un fou rire, donc ça m'intrigue beaucoup.
Marin, dis-nous.
Je vais rester poli parce que je peux facilement être grossier sur ce sujet. Ils se sont bien foutus de nous. Ils se sont bien foutus de nous. Ils nous ont, depuis le 13 mars, ils sont en silence radio. Ils nous ont mis l'administration nous a envoyé pendant 3 semaines des infos contradictoires sur les partiels qui devaient avoir littéralement lieu le 22 mars. Au final, on les a eu le 14 avril après 4 rebondissements. Et pour ce qui est des examens de juin, c'est toujours pareil, c'est le flou. Mais on a une date précise. Entre le 22 et le 28 juin, donc c'est pas trop mal, on sait. Par contre, pour tout ce qui était forme écrite, donc ce qui ne peut pas s'évaluer par Internet, qui ne sont pas des QCM, je dois avouer que c'est assez perturbant, pour rester poli.
Oui. Ouais, ouais. Elsa qui approuve.
Elsa qui approuve, oui, à travers la vidéo Zoom. Vas-y, Elsa.
Alors, pour moi, mes partiels sont maintenus aussi plus ou moins à la même date que ce qui était prévu à la base, donc pour mi-juin. Nous, nos partiels, en fait, ils sont toujours en QCM à partir de la 4e année. Il me semble qu'on n'a plus rien d'écrit, puisqu'on s'entraîne déjà pour le concours des ECN. Donc, tout va être fait à la maison, donc sur la plateforme Internet sur laquelle on a déjà l'habitude de faire nos examens. Mais c'est vrai, moi, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment été écoutée parce que les quelques premières semaines de confinement, la scolarité nous a envoyé en fait un tableau Excel où on devait remplir toutes les semaines qu'est-ce qu'on faisait, si nos stages étaient maintenus, si on faisait des remplacements ou si on aidait au SAMU, donc ce genre de choses. Et puis, au bout de 3 semaines, ils ont arrêté ce suivi. Donc, au final, ils savent plus trop ce qu'on fait. Et de manière générale, en fait, c'est difficile d'évaluer s'il y a des élèves qui se sont beaucoup investis, d'autres qui ont dû rester confinés parce qu'ils étaient eux-mêmes malades, ou d'autres qui sont restés en stage. C'est vrai que le niveau d'investissement, c'est difficile à évaluer. Et moi, personnellement, j'ai pas fait ça exprès pour faire plus que d'autres, ou je reproche pas non plus à ceux qui se sont pas beaucoup investis. Mais au final, des partiels, il y aura beaucoup d'inégalités. Ça, ce sera évident, parce que même pour tout le monde, le confinement, c'est pas facile. Et je vois même des camarades qui ont tout simplement pas la motivation, en fait, de travailler à la maison, dans cet état d'esprit, cette angoisse constante. Et nous, nos cours, depuis le début d'année, depuis la quatrième année, ce sont des livres. En fait, ce sont les collèges qu'on doit apprendre chez nous, donc plutôt tout seul. Donc, on est déjà livré à nous-mêmes. Et avec ce confinement, livré à nous-mêmes, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté de suivre les cours et de travailler, en fait. Donc, au niveau des partiels, il y aura beaucoup d'inégalités. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Et de l'autre côté, vu que ça va être à domicile, il y aura forcément beaucoup de moyens de triche, forcément. Donc voilà, c'est un peu la catastrophe. Franchement, je ne sais pas trop.
À vous écouter, au-delà voilà, de ce que vous avez vécu tous les deux pendant 2 mois et demi, on voit qu'il y a un vrai problème pour l'après, pour vous, en fait, dans vos études. Comment, là, on entend beaucoup d'angoisse. Ou beaucoup juste d'agacement, d'énervement en restant poli, comme tu le dis, Marin. Comment est-ce qu'on voit l'après, en fait, quand on est dans cette situation ? Parce que tout le monde nous vend l'après comme quelque chose de nouveau auquel il faut penser. C'est une question très floue. Mais comment est-ce que vous voyez l'après avec ce que vous avez vécu et avec vos ressentis aujourd'hui ?
Là, je crois que c'est vraiment un truc qui est propre à chaque faculté, même si je crois comprendre que la vôtre est presque aussi inefficace que la nôtre. Mais il y a un vrai problème dans l'administration, dans la gestion des études qui était déjà là avant, ça fait un moment qu'il est là. Le fait qu'il y ait eu cette crise, ça a juste paralysé tout le monde. Et même si j'espère très fortement que ça va changer, je sais très bien qu'on est en France et que ça ne va pas changer et qu'on va retourner à un état d'administration peu conciliante qui ne répond pas à nos demandes et qui fait un peu n'importe quoi. Et c'est un peu agaçant, je dois avouer, mais bon, de toute façon, on a déjà fait avec avant, donc on fera avec après, mais je ne m'attends pas à un miracle non plus, même si j'aimerais bien.
Tu es plutôt résigné en fait sur la suite, quoi.
Mais je me dis qu'il n'y a aucune raison pour que ça change, étant donné qu'on s'en est sorti parce qu'ils ont trouvé des solutions pour pallier à leur manque d'efficacité avec, pas des sacrifices, mais disons de l'agacement et du sang-froid, et de la perte de sang-froid.
Pour moi, l'après, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je vois juste qu'avec cette crise, ça nous a permis, nous étudiants, de s'exprimer un peu plus sur toutes les choses qui vont pas de manière générale. Donc je vois les associations de médecine ou la NEMF, on essaie de revendiquer tous nos droits, le salaire en tant qu'externe par exemple, la prime Covid aussi, elle est en discussion. C'est vrai qu'on en profite pour remonter tous les soucis effectivement qui sont là depuis déjà de nombreuses années. Donc j'espère que les choses vont changer, j'espère très fort, et j'espère que cette crise va faire changer un peu tout le domaine médical en France. Et aussi, j'avais un point à rajouter. Au niveau de la fac, je trouve qu'on n'a pas forcément, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas vraiment pris en compte l'investissement des étudiants pendant la crise. Et en fait, de l'autre côté, souvent, tous les médecins qui m'ont appelé, ou voilà, c'est une personne qui organisait l'application MedGo par l'ARS, ils m'ont tous appelé et ils m'ont tous demandé, j'étais presque sur un ton pour me supplier en fait d'apporter mon aide aux établissements. Donc moi personnellement, j'ai vraiment senti qu'on avait beaucoup besoin de nous en tant qu'étudiants en médecine, mais la faculté, eux, ils pensent qu'on continue nos études à la maison comme si de rien n'était, qu'il fallait travailler les partiels, qu'il fallait être prêt. Et de l'autre côté, les médecins extérieurs veulent notre aide, et du coup, voilà, en fait, entre les études et l'investissement, ça a été compliqué pendant la crise.
J'avais une dernière question. On a bien compris que vous aviez été confiné avec vos familles. Ma petite question, c'est aujourd'hui, à la fin du confinement, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez ? Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce confinement avec votre famille ? Est-ce que c'était un soutien ? Est-ce qu'au contraire, c'était contraignant ? Parce que du coup, il fallait faire attention à ne pas transmettre le virus. Vous auriez peut-être préféré être seul dans cette situation. Quelle est votre position maintenant, à la fin du confinement ?
Moi, je le referais sans hésiter avec ma famille, parce que si je dois juste me contenter de me laver les mains, de mettre mon masque correctement et de mettre toutes mes affaires à la machine en revenant, si c'est juste ça ce qu'il faut pour avoir du soutien moral, des discussions à table qui changent du Covid, et puis même faire autre chose de sa journée. Enfin, je veux dire, à la fin, le soir, quand je rentrais, quand on, après le dîner, en général, on faisait des activités ensemble. On s'est pas mal soutenu. On a fait, enfin, c'était une bonne ambiance. Et heureusement qu'il y avait ça à côté, parce que pour moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Et donc, je le referai sans hésiter. Et que si c'est juste des conditions d'hygiène simples, hein, qui sont vraiment pas, enfin, c'était pas des combinaisons de spacieux d'astronautes qu'on devait porter non plus. Donc, c'est quand même relativement simple et donc peu contraignant. Je le referai sans hésiter.
Oui, pour moi, je dirais la même chose. Là, pendant la période de confinement, sans ma famille, j'aurais jamais pu faire en fait ce que j'ai fait là pour aider à l'EHPAD, par exemple. Parce que c'est vraiment grâce à eux que j'ai tenu psychologiquement. À la fin de toutes mes journées, je racontais ce qui se passait. Je sortais un petit peu toutes mes émotions, toutes les choses que je vivais. Donc, je racontais. Et puis, non, c'est vraiment sans eux, j'aurais jamais pu faire tout ça. Donc, comme disait Marin, on a pris des moyens de précaution. Mais à côté, c'est rien du tout par rapport à tout ce que la famille peut nous donner en retour. C'est rien du tout.
Super. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Elsa et Marin, de nous avoir accordé du temps. On est ravis en tout cas d'avoir entendu votre histoire. On espère que nos auditeurs, nos auditrices ont pu découvrir un peu ce qui s'était passé pour vous deux étudiants durant ces 2 mois. Et on vous souhaite surtout beaucoup de courage pour la suite, pour les partiels, pour ces choses compliquées que sont les études. Et merci à vous deux.
Merci à vous, nous aussi. Hein.
Merci à vous et bon courage à vous aussi.
Et c'est à elle qu'on donne le mot de la fin dans cette émission. Emma, tu reviens sur nos 9 mètres carrés de réflexion avec une pincée d'optimisme. C'est l'heure de tes ondes positives.
En préparant cette chronique, je me suis demandé, est-ce que je suis la seule qui a limite honte de dire que le confinement, c'est ce qui lui arrivait de mieux dans la vie? Bon, à en juger la barbe d'Edouard Philippe, je crois que oui. Non, plus sérieusement, je vous le dis les gars, le confinement, j'adore. Déjà, j'ai plus besoin de prétendre que j'aime la bière au bar du coin avec les copains. Et ça, que ce soit mon corps ou mon esprit, je peux vous dire que les deux m'en remercient. Ah non, et faites pas semblant. Eh oui, vous savez de quoi je parle. Quand on va au bar et que tout le monde en commande, toi t'aimes pas ça, alors tu sors un petit un cidre, s'il vous plaît. Et le serveur, il te dit un quoi? Et du coup, tu réponds bien fort et à contre-cœur. Et bah, une bonne pinte de bière et quoi d'autre? Mais attention, je suis pas la seule à penser que le confinement c'est génial. Vous me croyez pas?
Personnellement, je suis pas très convaincue.
Moi non plus, pas du tout même.
Comme j'avais senti qu'il allait vous falloir des preuves, je suis allée sur le site le plus fiable d'internet, j'ai nommé le Saint Graal Doctissimo. Doctissimo donc nous dit que le confinement permet de, je cite, partager ensemble de bons moments et d'échanger ensemble. Alors, effectivement, ce confinement nous aura permis de mieux connaître nos familles, ou alors nos amis si on était en colocation, notre conjoint, ou encore nous-mêmes si on était tout seul. Moi, par exemple, j'ai réalisé que c'était pas mal, en fait, le temps où on me faisait à manger, le temps où je mettais mes affaires dans le panier à linge sale, et je les retrouvais repassées sur mon lit le lendemain matin. Et oui, j'ai tellement apprécié cette convivialité, ces repas à plusieurs, les tours de vaisselle, tout ça quoi, que j'ai abordé la possibilité de réaménager dans la maison familiale. Bah bizarrement, ils n'ont pas réagi. Enfin bref. Sinon, j'ai aussi suivi les conseils de notre cher président, selon qui cette période est idéale pour, je cite, « se réinventer ». Alors, je me suis mise au ukulélé. J'ai aussi suivi des cours de claquettes sur Zoom et je me suis revue Star Wars intégralement. Et aussi, j'ai fait des gâteaux, plein de gâteaux, énormément de gâteaux même. J'ai pris du temps pour appeler mes proches aussi, ma mamie par exemple. D'habitude, on s'appelle en coup de vent. Un coup, elle n'a pas le temps, un coup, c'est moi. Mais là, on l'avait le temps. Alors, on l'a pris. Et c'est là-dessus que je souhaitais finir cette petite chronique. Même si cette période, ça craint, que c'est pas drôle pour tout le monde, et que certaines personnes vivent même l'une des situations les plus terribles de leur vie. J'aimerais recommander aux personnes qui en ont la possibilité de voir cette période comme une occasion en or, de se poser et de prendre le temps d'apprécier chaque chose, chaque petite chose autour de nous, de sortir la tête de nos agendas et de vivre pleinement, passionnément, le moment présent, quoi. Bon, Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vais essayer de vivre pleinement mon confinement. Et puis, je vais essayer aussi de suivre les conseils de notre cher président Macron. Et puis, peut-être, qui sait, me réinventer.
Et qui sait ? Eh bien, merci à toi, Emma, pour tes ondes positives, la nouvelle chronique de 9 mètres carrés.
C'est l'heure de la fin de 9 mètres carrés. Il était peut-être d'ailleurs un peu plus court que d'habitude, parce que à émission confinée, le montage ne donne pas la même chose. En tout cas, on était vraiment très heureux, heureuses de faire cette émission malgré ces conditions. Cela nous permettra peut-être d'avoir une idée, d'avoir une vision des choses, de ce qu'ont vécu les étudiants. Ça reste une période difficile. On espère beaucoup de courage et un monde d'après meilleur pour celles et ceux qui bientôt rentreront sur le marché du travail et seront de véritables adultes. Pour moi, c'est la fin de 9 mètres carrés, car je ne serai plus étudiante l'année prochaine. Et il est donc normal de laisser la place à celles et ceux qui vont faire l'avenir. Je vous remercie donc pour ces deux saisons, ces deux années passées avec vous, étudiantes, étudiants. Il y a eu beaucoup de turnover et puis il y a eu beaucoup aussi d'auditeurs et d'auditrices différents. Ça a été un réel plaisir de partager ce qu'on vit quand on est entre les études et quand on grandit. Je laisse la place à celles et ceux qui feront l'association l'année prochaine et qui réinventeront sûrement le format à leur image. Merci Tom.
Merci
et
à bientôt. Toi. Merci à toi Laura, merci pour tout ce que tu as fait dans cette association. On ne le dit pas assez, mais l'association ON, c'est beaucoup d'étudiants qui travaillent des années entières sur beaucoup de projets. Et quand on doit résumer les projets sur lesquels tu as travaillé, il y en a trop. Alors je vais en garder deux. Voilà, comme quoi c'est possible de résumer à deux. Mais il y a 9 mètres carrés, puis évidemment il y a aussi À deux mains, qui sont les deux grandes choses que tu as apportées à cette association l'année dernière. Mais évidemment tu es là depuis bien plus longtemps, ancienne vice-présidente, ancienne responsable de la communication. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein.
On va passer.
Bref, merci beaucoup Laura, de tout notre cœur. On te souhaite le meilleur pour la suite. Et je dis on, pas pour les mauvaises raisons, car j'ai d'autres messages d'étudiants qui voulaient te dire au revoir.
Coucou Laura. Juste un petit message pour te souhaiter plein de bonnes choses pour la suite. Merci d'avoir été une super coprésidente et une super productrice de podcast. Merci de m'avoir intégrée dans l'équipe 9 mètres carrés, d'avoir toujours un œil bienveillant sur nos travaux, sur nos reportages, d'avoir été persévérante envers nous. J'ai beaucoup appris avec vous tous et j'ai adoré enregistrer les émissions avec toi, Camille, Tom, Kenza, Charlotte. Je te souhaite de continuer dans l'audio et de faire les projets que tu aimes. Et mention spéciale à toi parce que c'est grâce à un de tes podcasts que j'ai rencontré mon amoureux. Donc voilà, merci beaucoup pour tout ça et plein de bonnes choses pour la suite. Bisous!
Coucou Laura, alors on s'est pas forcément connus cette année, mais je suis Sharon, j'étais la chef de service de la rubrique ciné cette année chez ON. Et bah voilà, je te souhaite beaucoup beaucoup de bonheur pour la suite et merci bien sûr pour tout ce que t'as fait pour l'asso. Cet asso qui est génial et qui nous permet de faire plein de choses. Voilà, gros bisous.
Salut Laura, c'est Thomas. Merci pour tout et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite.
Salut Laura, bah c'est ton homonyme du journal. Voilà, juste pour te remercier pour tous les fabuleux projets que tu as amenés à l'asso au cours de ces dernières années. Et puis pour te souhaiter bon vent et bon courage pour tous tes projets. Je te fais confiance, je sais que tu les mèneras bien. Voilà, salutations.
Salut Laura, c'est Pierre, l'ancien de la rubrique cinéma. Alors ça y est, j'apprends que 9 mètres carrés se termine et que toi aussi tu vas aller vers de nouveaux horizons. Donc je vais te dire bravo et merci pour tout ton travail à ON les trois années où j'y étais. On se souviendra toujours d'un point culminant au Festival de Cannes avec un certain Stan et un certain Lilian. Et c'était vraiment très chouette ce voyage. Donc voilà, je vais juste te dire bravo pour tout et bon courage pour la suite. Salut!
Coucou Laura, merci pour tout. Pour tout ce que tu as fait pour nous, pour m'avoir fait découvrir la radio, pour avoir donné cette énergie à Grande Contrôle, à notre équipe, c'était vraiment super.
Coucou Laura, merci à toi de nous avoir fait découvrir Grande Contrôle, de nous avoir permis de faire notre première émission avec Mai 68. J'espère que tu en garderas de bons souvenirs. En tout cas, nous, on en garde de très bons. Merci à toi.
On t'embrasse. Coucou Laura, écoute un petit message pour te souhaiter une jolie route, aussi belle que l'aventure qu'on a traversée tous ensemble. Voilà, je te souhaite un bon voyage.
Coucou Laura, c'est Caro. Je voulais te remercier pour toutes tes années à ON, tout ce que tu m'as apporté, et surtout pour 9 mètres carrés qui, comme tu sais, est un podcast très important pour moi et très beau. Tu vas nous manquer. Gros bisous.
En tout cas, merci à tous. Merci d'avoir suivi ce podcast 9 mètres carrés. Et on vous dit à l'année prochaine pour une nouvelle saison. Au revoir.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.